les amis. Donc, nous sommes dans cette parabole, magnifique parabole du semeur. Et j'espère que vous trouverez cela ouvert sous vos yeux pour suivre maintenant ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et je vous invite dans un instant à la prière. Si vous préférez suivre dans votre propre Bible, évidemment, vous pouvez faire cela. Il n'y a pas une traduction sainte qui prône sur toutes les autres. Il y a la Bible avec plusieurs traductions. Nous en avons une de ces traductions ici dans le livret, mais bien entendu, libre à vous de suivre. Si vous vous regardez à la maison, bonjour aussi à vous. Content de pouvoir vous rendre ce service. Et nous prions pour vous, chers amis, et nous espérons que ce ne serait pas pour toujours que nous devons fonctionner comme ceci. Mais voilà, on va prier ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, tu nous as dit déjà ce matin dans cette lecture que celui qui a des oreilles entende. Que cela soit le cas pour chacun d'entre nous, que nous puissions apprendre, comprendre, entendre, mettre donc en pratique cette parole en ce qui concerne Jésus et le royaume. Sois glorifié, nous te prions. Amen. Dans notre société, l'arrivée d'un nouveau manager ou directeur ou coach signifie, nous l'espérons, un changement de direction, n'est-ce pas? Si Anderlecht a engagé Vincent Kompany, parce qu'il a joué longtemps en Angleterre, moi je l'appelle Vincent, mais je sais que c'est étrange de dire ça. Vincent Kompany a été signé ou engagé par Anderlecht comme coach il y a à peu près 2-3 ans, je pense maintenant 2-3 ans. C'est pour que l'équipe retrouve sa gloire, sa place en Europe. Si Manchester United vient de virer, enfin peut-être, Ole Gunnar Solskjaer, c'est pour que des résultats s'améliorent. Les actionnaires d'une entreprise, d'une société, cherchent à ce que la direction de la société prenne des décisions qui augmentent la valeur de leurs actions. De même pour le pouvoir organisateur d'une école qui engage un directeur, une directrice d'école. Ils cherchent qu'il y ait des améliorations par rapport aux résultats de cette école. Le monde, notre monde fonctionne ainsi, nous sommes tous d'accord. Un leader est élu pour effectuer des changements. C'est pour ça que le gouvernement Vivaldi est souvent un peu stressé par rapport à des décisions à prendre dans différents dossiers. Alors, qu'en est-il de Jésus-Christ? Jésus avait annoncé, dès le début de son ministère, l'arrivée du royaume de Dieu. Le règne de Dieu, le règne des cieux, parfois ça varie dans les différentes traductions que nous avons. Jésus avait effectué quelques signes miraculeux qui accompagnaient la venue de ce roi, de ce royaume. Des malades avaient été guéris, des démons ont été chassés. Il avait apaisé même une tempête, tout cela. Nous l'avons déjà vu si nous avons parcouru l'évangile de Matthieu dans notre lecture. Mais, et nous voyons ceci également dans les chapitres qui précèdent le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus suscitait de l'opposition. Chapitre 12, verset 14, les pharisiens cherchent des moyens pour le mettre à mort. Certaines villes refusent de reconnaître Jésus. D'autres critiquent les disciples de Jésus. Même Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, ne comprenait pas pourquoi, au chapitre 11, Jésus ne déclenchait pas le jugement de Dieu sur l'injustice et l'iniquité. Il dit, au verset 3 du chapitre 11, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Il y a d'autres qui expriment leur opposition de manière encore plus directe. Ils ne chassent les démons que par le prince des démons, Satan. Même la famille de Jésus, il semble, à la fin du chapitre 12, ont des doutes à son sujet. Mais pourquoi le roi de ce royaume, avec autant de résultats mitigés? Pourquoi les Romains, le pouvoir de l'époque, continuent à exercer un tel pouvoir en Israël si Jésus est bel et bien le roi envoyé par Dieu? Pourquoi autant d'opposition qui continue d'avoir de la puissance? C'est dans ce contexte-là que Jésus se met à enseigner au chapitre 13. Le chapitre 13, c'est le troisième bloc d'enseignement de la part de Jésus dans cet évangile. Il y en a cinq en tout, cinq blocs d'enseignement. Et chacun se termine par la même phrase, plus ou moins. Ici, on ne voit pas sur le livret, mais dans votre Bible, au verset 43, vous verrez qu'il est marqué ceci. « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. » C'est toujours cette même phrase, plus ou moins, qui revient à la fin de chaque bloc d'enseignement. Donc, tout comme, peut-être ça fait écho pour vous, le Torah, avait cinq livres dans l'Ancien Testament, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, cinq livres d'instruction pour le peuple de Dieu. Jésus expose son instruction en cinq blocs pour cette nouvelle ère pour le peuple de Dieu, l'ère inaugurée par Jésus le roi lui-même. Il y a tout un intérêt donc pour le peuple de recevoir cet enseignement, d'entendre son instruction ici au chapitre 13 au sujet de son royaume. C'était important à cette époque-là pour comprendre Jésus-Christ et son royaume. C'est important encore aujourd'hui pour comprendre Jésus-Christ, parce que ces mêmes doutes peuvent encore traverser nos esprits, n'est-ce pas? Peut-être toi, ici présent ce matin, tu te dis au sujet de Jésus, mais pourquoi s'il est vraiment le roi, il y a si peu qui croient en lui? Pourquoi est-ce que ce royaume dont vous parlez, les chrétiens, est réel, que ce royaume semble avoir si peu d'impact ici en Belgique, autour de nous? Pourquoi à Bruxelles, si peu de croyants en Jésus-Christ par rapport à toutes les autres personnes dans ma société, dans mon école, dans ma famille? Et donc, nous allons trouver ensemble trois leçons pour nous dans cette parabole du semeur qui nous apprend des choses importantes au sujet de ce royaume. Première leçon, il n'y a qu'une seule méthode. Il n'y a qu'une seule méthode. Alors, le semeur dans cette parabole, il est sorti pour quelle raison? Pour bronzer? Pour manger? Pour échanger avec ses voisins? Pour aider d'autres ouvriers qui tombent malades? Pour réparer son sac de temps à autre lorsqu'un trou y apparaissait, là où il y avait du grain? Pour passer commande pour le grain? Sûrement, il faisait quasi toutes ces choses à différents moments de la semaine, du mois. Mais son rôle est assez facile à comprendre, selon la parabole, n'est-ce pas? Verset 3, il sortait pour semer. Et cette semence, bien qu'il voulait que cela tombe sur la bonne terre, inévitablement, en partie, cela tombait avec cette méthode assez basique et pré-industrielle pour semer, dans différents endroits, car il y avait des chemins à travers les champs. Il n'y avait pas de clôture à ce moment-là. Donc ça tombait le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines, et aussi dans la bonne terre. Et en fonction des endroits différents dans lesquels le grain tombe, il y a des résultats différents. Mais il n'y a qu'une seule méthode. Ce n'est pas une méthode ici pour ce type de terrain, ben une autre méthode pour ce terrain-là, et encore une autre pour ce terrain-là. Non, il n'y a qu'une seule méthode. Et lorsque Jésus explique ce que cela signifie, plus tard, au verset 19, de nouveau, je ne pense pas que c'est très difficile à comprendre. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, verset 20, verset 22, verset 23, celui qui entend la parole. Il n'y a qu'une seule méthode dans le royaume de Jésus. Le royaume que Jésus inaugure, c'est de semer la parole de ce royaume. De cette bonne nouvelle d'un roi qui règne, qui est puissant, qui est saint, qui vient afin de servir, afin d'accomplir des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, et qui fait cela de manière étonnante, qui s'humilie comme un esclave jusqu'à une croix pour prendre sur lui ce que nous étions incapables de prendre sur nous, la punition pour nos péchés, la malédiction de la colère de Dieu, pour que par la foi en lui, nous devenions membres du peuple de Dieu, aimés et chéris par Dieu. C'est cette parole-là à propos de Jésus et de son royaume qui doit être semée. À la fin du serment sur la montagne, plus tôt, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, Jésus dit ceci: quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. À la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, Jésus donne l'ordre à ses disciples de faire des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple ? Bon, il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et ensuite, il dit « enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». C'est indispensable pour un disciple, c'est d'entendre la parole de Dieu et mettre cela en pratique. On ne peut que devenir disciple de Jésus sur base de son enseignement, de sa parole, son enseignement à propos de lui-même, le roi. À propos donc de ce royaume. C'est notre réponse à cet enseignement, ce contenu au sujet du royaume de Dieu qui déterminera si nous sommes, oui ou non, disciples de Jésus. Si le moment de la moisson viendra, et à ce moment-là, comme la parabole que nous avons vue la semaine dernière, nous a montré, lorsque nous arrachons le blé et la mauvaise herbe, la valeur à ce moment-là du royaume qui dure, qui est éternel, qui n'est pas brûlé lors du jugement, cette valeur à ce moment-là sera manifeste à tous. Mais ce moment-là, lors de la parabole du semeur, pendant cette période de semence, n'est pas encore venu. Pour le moment, nous sommes encore dans cette période de semence. Le royaume n'est pas encore donc présent dans toute sa splendeur, toute sa gloire, reconnue par tout le monde. Non. Mais ce n'est pas pour autant que le royaume de Dieu n'est pas réel, n'est pas présent. Le message du royaume doit être semé. Et c'est super important cela, chers amis, pour l'Église, pour l'ensemble des disciples de Jésus-Christ, d'être clair sur ce point. Quel est le seul moyen que le Maître donne pour faire des disciples? La semence de la parole de Dieu au sujet du royaume de Dieu. Pour reprendre alors le langage du verset 3, nous sortons donc Dans quel objectif? D'aimer nos frères et sœurs pour chanter les louanges de notre Dieu, pour accomplir des miracles, des guérisons, chasser des démons, pour donner un coup de main dans des tâches pratiques pour le bon fonctionnement de nos rassemblements, pour prier, pour gérer nos responsabilités familiales avec sagesse, pour rendre visite aux malades et pour faire à manger pour des affamés. Oui, c'est vrai. Certaines de ces choses sont ailleurs dans le Nouveau Testament, mandatées pour tout chrétien à différents moments, à différents endroits. Mais ce n'est pas en exerçant l'un ou l'autre de ces différentes activités ou responsabilités que nous accomplissons la mission que le Seigneur nous a laissée en tant qu'Église. Notre tâche, pour que le royaume de Dieu grandisse, c'est de semer la parole de Dieu, de proclamer le message de Jésus-Christ crucifié. Jésus, après tout, n'était pas crucifié parce qu'il guérissait des malades, parce qu'il pourvoyait à manger pour des affamés, parce qu'il prenait soin des veuves, des orphelins, des marginalisés, des pauvres. Non, il a été crucifié pour le message à propos du royaume qu'il proclamait, à propos de lui-même et donc de notre péché, du salut qui se trouve en lui, ce royaume qu'il annonçait. Notre tâche, c'est d'exposer, de proclamer ce message. Oui, bien sûr, nous ferons bien d'autres choses également dans nos activités en tant qu'Église, mais notre tâche en tant qu'Église est celle-là. C'est la seule méthode pour que le royaume de Dieu grandisse. Alors, rendons ça un peu plus concret. Peut-être vous êtes visiteur chez nous, ou peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire avec quelqu'un qui entre dans nos locaux, ou quelqu'un avec qui j'ai un contact et j'aimerais parler de Jésus-Christ à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si vous êtes visiteur, j'espère que ceci ne se fera pas tous dans un seul coup, bien entendu, mais petit à petit. D'abord, j'espère qu'on salue la personne. J'espère qu'on lui dit que même s'il fait froid, ça fera plaisir de mieux faire sa connaissance à l'extérieur. J'espère qu'à un moment donné, si ça se fait à quelques reprises, on lui offre de l'hospitalité. J'espère que si on entend parler d'un déménagement qui doit se faire, qu'on va aider de façon pratique avec son déménagement. J'espère qu'on priera, au fur et à mesure qu'on grandit en connaissance pour cette personne. J'espère que nous serons contents de voir cette personne venir régulièrement dans notre assemblée pour chanter avec nous des cantiques. Mais ce n'est pas parce que cette personne dit « Ah, tu sais, super sympa tout cela. Je me sens bien maintenant chez vous. J'aime votre façon de nous accueillir. J'aime votre façon de chanter. J'aime votre façon de aider. » Qu'une telle personne devient un disciple de Jésus-Christ. Non, c'est le message de la parole de Dieu, de la parole du royaume de Dieu qui fait cela. Et collectivement, en tant que peuple de Dieu, nous semons ce message-là. Alors apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vu ça dans les sources moi-même, mais apparemment saint François d'Assise aurait prononcé les mots suivants. Prêchez toujours l'évangile en utilisant des mots lorsque c'est nécessaire. Apparemment, un autre évangéliste, que je n'ai pas encore rencontré non plus, a mis le commentaire suivant par rapport à ce dicton de saint François. Si jamais je rencontre François au ciel, je le cogne. Parce que ses paroles ont induit tant de gens en erreur. Bien sûr qu'il faut l'amour. Mais l'amour sans contenu du royaume de Dieu expliqué, annoncé, proclamé, ne mène pas quelqu'un à connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur de la Bible, le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui se révèle à nous par sa parole. Il parle. Pour le connaître, nous devons comprendre sa parole. C'est cette parole-là qui donne la vie, soufflée par l'Esprit de Dieu. Et c'est bien cette parole qui change les cœurs, pas d'autres méthodes. C'est bien cette parole qui est puissante. Et là même, on peut aussi facilement se tromper, même au sein de nos églises. J'ai reçu il y a quelque temps une photo de Benjamin. On a beaucoup parlé de Benjamin ce dernier temps. On le verra en chair et en os en janvier. On a hâte de le voir. Il fait son stage à Washington. Et il fait son stage à Washington dans une grande église à Washington. Je pense qu'il y a 2 ou 3 000 membres dans cette église. Mais vous savez que cette église se réunit toujours dans un bâtiment où il y a encore des bancs, rien que des bancs. Il y a, pour la musique, il n'y a rien qu'un piano. Peut-être pas toujours, mais pour la plupart du temps, c'est très simple. Je ne dis pas cela pour dire que voici alors la formule à trouver pour que notre église grandisse. Il faut encore des bancs, oui. Il faut rien que le piano. Mais pour démontrer que ces choses ne sont pas aussi importantes que cela pour la croissance d'une église. Oui, il peut y avoir de bonnes raisons pour rendre nos locaux plus adaptés, pour chercher à quitter cette école, par exemple, et être dans un nouveau bâtiment à un moment donné, pour rendre le ministère plus abordable, disons-le, dans un contexte contemporain. Mais il ne faut pas que notre point de départ soit, si nous rendons nos locaux plus adaptés, si nous transformons la musique dans cette église, à ce moment-là, les gens deviendront des chrétiens. Non, c'est uniquement le message de Jésus-Christ proclamé qui fait cela. Il n'y a qu'une seule méthode. Mais deuxièmement, il y a plusieurs réponses attendues. Il y a plusieurs réponses attendues. Cela aussi se voit de façon assez claire dans cette parabole, n'est-ce pas? Il y a des oiseaux qui mangent des grains qui tombent le long du chemin. Il y a des endroits, Pierrot, où la couche de terre n'est que superficielle et donc, faute de racines, la semence pousse trop vite sous le soleil et ensuite elle dessèche. Il y a également des épines qui étouffent les plantes. Et il y a le grain qui tombe dans la bonne terre qui donne du fruit. Tout dépend de là où le grain tombe. Et Jésus donne cette explication, ou son explication, à ses disciples, pas dans l'objectif de leur faire peur. Ah, vous les disciples, peut-être vous n'êtes pas la bonne terre après tout. Non, mais dans l'objectif de les équiper, comme c'était nécessaire pour Jean-Baptiste, 2 chapitres plus tôt, les équiper à comprendre pourquoi certaines personnes ne répondent pas positivement à propos de Jésus-Christ et de son message. Pour que donc ses disciples ne soient ni perplexes, ni découragés, ni déroutés par l'ensemble de ces différentes réactions au sujet de Jésus. Prenons donc les différents exemples que Jésus nous donne ici. Le grain qui tombe sur le long du chemin, dont l'explication à la fin de la parabole, c'est qui? C'est quelqu'un qui entend la parole et ne la comprend pas, ne réagit pas. Il s'agit ici donc de quelqu'un qui a quand même entendu la parole. Pensons donc aux personnes invitées à l'un de nos événements, à un culte porte ouverte, une soirée virtuelle même, où quelqu'un a entendu la parole. Mais semble toutefois de ne pas avoir compris la moindre chose. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents d'un point de vue intellectuel, ni du Jésus, mais c'est que Satan est à l'œuvre. Il arrache ce qui a lieu. C'est triste. C'est décourageant. Surtout si c'est un ami ou un membre de la famille, de voir quelqu'un réagir de la sorte. Je me souviens, lorsque je me suis converti moi-même, au moment où j'assistais à la réunion où le message de la parole a été annoncé, j'étais invité avec une autre personne d'assister à cette réunion. Et moi, j'étais percé par le message de façon très étonnante pour moi. Et on nous a demandé de cocher la tête et de prier à la fin du message. Et j'ai vu que l'autre personne à côté de moi, aussi invitée, a entendu exactement le même message que moi. Moi, j'étais prêt à pleurer parce que je comprenais la portée de ce que Jésus a fait pour moi. Et l'autre personne à côté m'a regardé, parce qu'on coche la tête comme ça pour la première fois. Elle a dit ceci: qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et que deux personnes, deux réactions totalement différentes. Peut-être vous connaissez ça, vous avez invité un voisin. C'était le cas pour nous, il n'y a pas longtemps. Et le lendemain, après avoir assisté à une réunion, on se croise et on a hâte d'entendre que comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ce message. Oh, c'est très sympa, votre soirée, grand merci. Mais sache que ça ne me concerne pas, je suis athée, tu sais. Et c'est fini. Et tu dis, mais exactement, on a fait ça pour toi. Non, rien compris. Ensuite, il y a la semence qui tombe dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voilà, moi je pense à un ami proche du passé qui, à ma grande surprise, pas parce que moi je lui avais présenté le message de Christ, mais quelqu'un d'autre, il a répondu à Christ lors d'un message de proclamation. Et il m'a téléphoné pour me demander si on pouvait se réunir pour discuter ensemble. Je ne croyais pas que le Seigneur est à l'œuvre dans sa vie. Et il faisait preuve de joie, d'émerveillement, même de soif pour progresser. Mais ensuite, quelques semaines plus tard, il rencontrait une fille au travail. Et face au choix de poursuivre sa foi, ou poursuivre la fille, ben, il a penché pour la fille. De même pour un autre couple dans notre église, il n'y a pas longtemps, qui fréquentait un parcours découverte, qui comprenait petit à petit que le fait d'être en cohabitation avec quelqu'un n'était pas compatible avec sa foi. Mais lorsque sa copine lui disait « Mais écoute, tu ne dois pas prendre ça à la lettre, tu sais », après avoir, la semaine après avoir été ému d'avoir entendu parler de Jésus mort sur la croix pour lui, de sembler dire « Oui, je veux Jésus comme sauveur ben, », une semaine plus tard, couper contact. On n'a plus jamais entendu parler de cette personne. Il y a en troisième lieu la semence qui tombe parmi les épines. Là, il ne s'agit pas d'un abandon total du message entendu de la part de cette personne. Mais verset 22, « Les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. » De telles personnes, voyez-vous, chers amis, n'ont pas formellement quitté la foi ni forcément l'Église, mais ils ne s'investissent pas dans la foi, dans l'Église. Évidemment, là, nous pouvons penser à de nombreuses personnes qui ont un contact avec cette Église depuis un certain nombre d'années, qui ne sont pas contre la foi, loin de là, mais qui n'arrivent jamais à faire une priorité de cette foi. Oh non, le travail demande trop de leur temps, de leur énergie. Oh, ils sont bien submergés par la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo. Le désir de tout pouvoir pour les enfants. Et donc, ils courent à gauche et à droite. Pas de disponibilité, ni de désir d'orienter leur quotidien autour de ce que Jésus-Christ la demande. Au lieu de chercher derrière le contentement en Jésus-Christ, ses promesses, ses bénédictions, ils cherchent toujours ce contentement ailleurs. Ils sont préoccupés de ne pas obtenir des bénédictions qu'ils cherchent dans cette vie. C'est ça ce qu'ils veulent. Et c'est aussi frustrant de voir cela chez amis. C'est même peut-être un peu déprimant de temps à autre de voir autant de découragement. Mais c'est attendu, c'est prévu. Cela aura lieu. La semence donnera suite à toute la gamme de ses réponses. Un ministère réussi n'est pas un ministère qui ne connaît pas son lot de découragement. Je pense que c'est pour cette raison que parfois je me fatigue de ceux dans le milieu chrétien qui cherchent toujours à parler de leur réussite dans le ministère, comme s'ils essayent de peindre un portrait toujours positif de ce que le ministère chrétien peut connaître. C'est vrai, il y a des encouragements. Mais trois des quatre terres sont décourageantes. C'est dur parfois. Et vous savez quoi? Ce n'est pas de notre faute, cela. Notre boulot, c'est de semer. Ce n'est pas de récolter. La récolte est de la semence ne dépend pas forcément de nos dons à nous, de notre habilité pour bien semer. Non, ce n'est rien à voir. L'accent tombe pas sur le semeur dans cette parabole, sur sa façon de semer. Oh tiens, oh, regarde comme celui-là, il est en train de distribuer ce grain lorsqu'il sème. Oh tiens, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Oh lui, il va de gauche à droite. Et tu as vu comment il change de direction lorsqu'il sème? Oh là là, il fait ça avec sa poignée. Oh, c'est impressionnant. Quelle technique! Tu vois le nouveau crible qu'il a pour la distribution de sa semence? Oh, j'ai jamais vu un modèle pareil. Tu trouves un bon deal sur Black Friday? Allons-y, il nous faut cela. Non, le semeur sème dans la simplicité. Point, on n'entend plus parler de lui. La réussite ou non de la semence ne dépend pas de celui qui sème, de sa personnalité, de ses outils. Arrêtons donc, dans l'œuvre du royaume, de croire que tout dépend de nous, chers amis, de convoiter éventuellement les dons de quelqu'un d'autre, de se dire « Ah, moi, j'arrive pas à parler comme lui, tu sais, à expliquer comme elle la foi, à rigoler comme lui, avoir le contact facile avec des gens. Oh, je ne suis pas aussi intelligent qu'elle pour répondre à des questions. » Non, ça ne dépend pas de ça. Il y a plusieurs réponses prévues. Soyons donc prêts pour toutes ces réponses, y compris, bien entendu, des réponses encourageantes. La bonne terre qui entend la parole, qui la comprend, qui porte du fruit. Notons que là aussi, la récolte varie. Même dans la bonne terre, ben l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ben celui qui a 30 est toujours dans la bonne terre, même si c'est beaucoup moins que 100. Qu'est-ce qui fait la différence entre toutes ces réponses, ces mauvaises réponses, et celle-ci, la bonne réponse? Bon, il s'agit, la quatrième terre nous dit la parabole de celui qui entend la parole et la comprend. C'est la seule qui a fait les deux, entendre et comprendre. Et cela donc nous amène à notre dernier point. Il y a deux façons d'entendre. Jésus avait terminé la parabole elle-même avec cet appel à entendre. Que celui qui a des oreilles entende. Mais il y a un sens, bien entendu, que tous l'ont entendu. Tous ont des oreilles. Mais il y a entendre et entendre. Verset 19. Que quelqu'un a entendu, mais n'a pas compris. Tandis que lorsqu'il est question de la quatrième terre, la personne entend et la comprend. Et cela nous mène donc à cette section, disons, un peu plus difficile, n'est-ce pas? Peut-être vous l'avez remarqué, entre la parabole et son explication, au milieu, il y a les versets 10 à 17. Car là, Jésus explique pourquoi il parle en parabole. Et dans cette section, il cite le prophète Ésaïe pour expliquer comment, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Verset 14. « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec les yeux, d'entendre avec les oreilles. » Et donc pour de telles personnes, endurcies dans leur rébellion, leur manque d'intérêt sincère à se transformer, les paraboles, au lieu de les éclaircir, les juge. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais verset 16, Jésus dit à ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ce n'est pas que les disciples, quant à eux, comprennent tout de suite. Non, ils ont besoin de comprendre. Il leur faut l'explication de Jésus pour comprendre. Jésus leur dit, vous donc, entendez la parabole du semeur quand il commence son explication. C'est-à-dire ce que cela signifie. Ils écoutent, donc ils entendent avec l'intention de comprendre. Et c'est ainsi que Jésus peut dire au verset 11 que le mystère du royaume leur est donné. Les paraboles, donc, ne sont pas des histoires simplistes, rien que pour des enfants. Oh, c'est une chouette parabole, ça. Elles ne sont pas non plus des énigmes, rien que pour des initiés. Non, les paraboles rendent durs les cœurs de ceux qui sont déjà endurcis, résolus de ne pas entendre. Et ces paraboles illuminent les cœurs de ceux qui commencent à suivre Jésus, à mettre en pratique sa parole, à faire la volonté du Père. Ultimement, c'est bien cela le problème de la semence qui tombe dans des endroits pierreux, parmi les épines, n'est-ce pas? Ils entendent, mais pas à un point où ils comprennent, où ils font une priorité de ce qu'ils ont entendu. Comme au temps d'Ésaïe, c'est ainsi au temps de Jésus, avec des pharisiens. Verset 12, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire ceux qui rejettent Jésus, sa parole, on ôtera même de ce qu'il a. Oui, leur place privilégiée en tant que membre du peuple de Dieu seront enlevées et données à ceux qui commencent à répondre à Jésus et à son message. Pour porter du fruit, il faut chercher à entendre, à mettre en pratique la portée de ce que Jésus dit, à ne pas endurcir notre cœur lorsque Dieu nous parle. Alors, juste deux questions à la fin. Et nous, faisons-nous cela lorsque nous sommes ensemble? Voyons-nous l'importance d'entendre le message du royaume, de méditer sa portée, de ne pas mettre de côté ce que Dieu dit? Dans un sens, nous pouvons dire que formellement, je pense, les choses sont en place ici, dans cette église protestante. La chair, c'est le point central de la configuration de notre bâtiment. Vous voyez cela. Ce n'est pas l'autel, non, c'est la chair. Parce que le message proclamé, c'est le moment le plus central de notre rassemblement. C'est aussi le moment, vous l'avez remarqué, le plus lent de notre rassemblement. C'est fait exprès. Mais est-ce que notre attitude face à cela, c'est d'endurer afin de pouvoir profiter pour parler du foot après, parler de Netflix, parler de la bourse? Sommes-nous soucieux en tant qu'Église pour que la parole annoncée soit bien enracinée parmi nous? Ce n'est pas qu'il ne faut jamais parler du foot, bien entendu. Est-ce que si on se limite toujours à des choses de cette vie, qu'on ne se soucie pas pour l'application de la parole de Dieu dans nos vies, nous sommes en danger. Et donc, dernière question, et toi? Peut-être tu es en visite parmi nous. Est-ce que tu comprends? Notre souhait pour toi, c'est que tu ne sois pas harcelé, bien entendu, par des hommes religieux, mais plutôt interpellé par le roi de ce royaume. Et toi, si tu es plus habitué à entendre ces choses, disons-le, restes-tu conscient que le cœur n'est jamais neutre par rapport à Dieu? Soit on ouvre notre cœur à ce que Dieu nous dit dans sa parole, soit on l'endurcit. Savez-vous donc que c'est dangereux, cette activité, d'être ici? Peut-être vous dites, bon, ça c'est pas dangereux, c'est pas comme si je suis dans un zoo et j'ai un lion à côté de moi qui fait peur. C'est encore plus dangereux que cela, vous comprenez cela? Parce qu'il y va de l'éternité dans le royaume de Dieu. Votre attitude ici, ce matin, témoigne de ce qu'il y a pour votre éternité. C'est dangereux. Tu es conscient de cela? C'est juste une corvée. Prions le Dieu de toute grâce qu'il ouvre nos yeux. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette instruction donnée aux disciples pour comprendre comment ça fonctionne, cette période de semence du message de ton royaume. Et donne-nous donc de comprendre qu'il va y avoir toutes ces réponses à travers la proclamation de l'Église de Jésus-Christ. Nous attendons à toute cette gamme de réponses. Prépare-nous, nous te prions encore pour cela. Garde-nous de l'orgueil si nous pensons que nous sommes au centre de la réussite de l'une ou l'autre chose, mais garde-nous également du découragement. Donne-nous d'être fidèles dans cette semence. Et nous te demandons également, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse avoir des cœurs réceptifs à ce que tu nous dis, des oreilles donc pour entendre, que nous soyons ceux qui reçoivent cette parole, qui la comprennent, qui désirent comprendre cette parole, qui cherche donc à mettre cette parole en pratique. Glorifie ton nom parmi nous te prions. Amen.